Ce chou redélié pour RFOA, un petit enfant de 2 mois qui est, on espère qu'il va survivre, en réanimation. Yehuda, Shmuel, Ben, Rachel et Elisheva. Alors la question de Dan David. Il est écrit qu'il y a un grand mérite d'habiter la terre d'Israël. D'abord, la Gemara dans Brachot, page 5, dit qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent avec souffrance. La Torah, Olam Haba, Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas acquérir une chose qui a de la valeur sans souffrance. Ce n'est pas possible. Donc si la Gemara met au même niveau la terre d'Israël, la Torah et Olam Haba, on sait bien que la Torah et Olam Haba, ce sont des choses extraordinaires. C'est-à-dire que l'Eretz Israël aussi, c'est une chose qui est extraordinaire. La question est, on ne ressent pas. Je veux dire, ok, climat est plus sympa qu'à Paris, mais sur la côte, c'est bien aussi, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Bon, alors, c'est clair que le ressenti n'est pas un système de jaugeage permettant de quantifier la valeur d'une mitzvah. Nous sommes constitués de plusieurs parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayechida. Le Nefesh, c'est la partie responsable du corps. On la ressent. C'est ce qu'on appelle le corps. Le corps en soi, c'est un morceau de steak, il n'a pas de sensation. Alors, il y a des messages qui passent par les nerfs, des messages électrochimiques qui passent, qui font que dans le cerveau, les neurones s'excitent. Ce qui me fait ressentir à moi, moi c'est une réalité spirituelle, qui est entre autres dans le cerveau, d'accord, et ce moi ressent. Je sens que ça brûle, je sens que c'est agréable, d'accord, tous les plaisirs, toutes les souffrances, tous les instincts que nous avons, tout cela provient des différentes parties qu'on a dans le nefesh. Lui aussi, il est divisé en plusieurs parties. Ruach, déjà plus haut, c'est le vrai moi, celui qui a les choix entre les messages du nefesh qui me disent « viens, c'est agréable » et la neshama qui me dit « ouais, mais c'est contraire au bien, c'est contraire au message de Dieu ». La neshama, c'est la partie la plus haute, disons, des 3 premières, elle n'a que des messages divins. Elle veut la justice, elle veut la vérité, elle veut un sens à notre vie. Elle veut le bien. Le nefesh n'a rien à faire. Nefesh, tu réponds oui, mais. Tout de suite, tu réponds. Non, mais c'est pas bien. Oui, mais. C'est pas juste. Oui, mais. Elle veut un peu. C'est kiffant. C'est kiffant, ça fait plaisir. Ça va pas m'en tenir. C'est trop bon. Et celui qui décide entre les deux, c'est le rouar. Maintenant, il y a des parties beaucoup plus hautes chez nous. Il y a Chaya, Yechida, dans ces parties, il y a plusieurs parties aussi. Nous ne pouvons pas quantifier. Quand je fais une mitzvah, on crée une réalité divine. Je vais raconter 10 000 fois ici, 10 000 fois une, d'accord, le mot mitzvah est constitué de 4 lettres. Les 2 dernières lettres sont les 2 dernières du nom de Dieu. Vav et puis He. Les 2 premières, même et tzadik, sont en Atbash. Atbash, qu'est-ce que c'est? C'est un alphabet kabbalistique. On prend les lettres à l'envers. Atbash. At, Aleph correspond à Taf. At, Bet correspond à Shin. Gar, Dak. Gimel correspond à Resh. Dalet, à Kouf, etc. Donc, les 2 premières lettres du mot mitzvah, même tzadik, en Atbash, correspondent aux lettres Yud et puis He. Donc le mot mitzvah correspond aux lettres Yud et puis He, et puis Vav et puis He. Ce sont les lettres du nom de Dieu, le nom ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer. C'est bien de penser au contraire, on peut beaucoup le penser, on n'a pas le droit de prononcer dans aucun cas. Que le Kohen Gadol, à l'époque du temple, etc., dans le temple, et à Yom Kippour, qui est une contraction de 3 mots en hébreu. Haya, Hove, Yiyeh. Qui était et sera l'éternel. Tu fais une mitzvah, tu crées une réalité éternelle. En parenthèse, pourquoi les deux premières lettres sont en atbash et les deux dernières sont en alphabet normal, et les dernières en alphabet normal. Le Achem Kadosh, dans Parashat Achakidoshim, Achemot, dans Kidoshim, il dit que j'ai expliqué dans Achemot pourquoi les deux premières lettres sont à l'envers. Je vais aller voir dans Achemot, là-bas il dit, je ne sais pas ce que c'est exactement, il dit qu'il y a deux mondes. Les deux premières lettres sont parties du monde Alma dit Kassia, le monde caché, et les deux dernières lettres sont parties du monde dévoilé, Alma dit Galia. Les lettres Yud Kevavke correspondent à des mondes supérieurs, d'accord, dans lesquels Dieu demeure. Plus on est au début du mot, plus ce sont des mondes. Yud, c'est très haut. Après Hei, c'est plus bas. Après Vav, c'est encore plus bas. Après Hei, c'est encore plus bas. D'accord, on dit le Hei, d'ailleurs, le dernier Hei, est en Galout, il est en exil. C'est la Shrina qui est avec nous en exil. Donc, quand on fait une mitzvah, on crée une réalité qui est éternelle. On crée de la divinité en nous. On amène vers nous un flux de lumière éternelle. Dans quelle mesure quelqu'un peut ressentir ça? La question c'est, je ne ressens pas. Mais est-ce que tu peux ressentir? C'est très dur de ressentir. Il y a certaines mitzvot qu'on ressent. Par exemple, Shabbat. Shabbat, une mitzvah où quelqu'un qui le sanctifie un temps soit peu peut déjà ressentir. Alors, tout le monde ressent que Shabbat, il y a des bons plats, il y a une belle nappe, ok, il y a des chansons, c'est plus sympa, c'est relax. Mais normalement, il y a plus que cela. Si on fait un Shabbat le mardi, alors c'est pas que quelques personnes qui sont, disons, petites spirituellement, disent, bon, aucune différence entre le Shabbat et le mardi dans lequel on a fait Shabbat. Quelqu'un qui est déjà plus haut spirituellement, il sent Shabbat une différence. Alors c'est une mitzvah qu'on peut ressentir. Il y avait un grand mashgiach qui s'appelait le Rabbi Lapian, un grand tzaddik, Eliyahu Lapian. Et lui, comment il vérifiait les tefilines? Il mettait sur la tête. Kacher, pasoul, kacher, pasoul. C'est pas notre niveau. Il y a des gens qui ont le niveau. Il y a. C'est pas notre niveau à nous, toi et moi. D'accord? On m'a raconté l'histoire d'un Rosh Yeshiva qui a donné ses tefilines à vérifier. Et ils ont vérifié et l'ont rendu. Toujours revenu, mais vérifier de nouveau. Effectivement, il s'avérait qu'il y avait un problème et il y a des gens qui sentent. Mais la grande majorité des bons juifs qui mettent filine tous les jours peuvent mettre pendant 50 ans de filine pas soul, hein. Et là, s'il y en a, ça arrive. Sans rien ressentir. Donc, la sensibilité à la kedusha, c'est une chose qui s'acquiert en fonction de la kedusha qu'on a. En français, la sensibilité à la sainteté s'acquiert avec le plus cette sainteté, plus tu deviens sensible à la sainteté. C'est du travail, c'est un bon chemin. Chazal témoigne, nous ça de mémoire bénie, témoigne que la terre d'Israël est une terre extraordinaire. Toujours marqué Eretz Hashem, la terre de Dieu. C'est une terre de Dieu. Tous les auteurs ont été créés par Dieu, mais ce n'est pas la terre de Dieu. La terre de Dieu, c'est une présence de Dieu, quand c'est marqué dans la Torah, que les yeux de Dieu sont dans cette terre, du début de l'année à la fin de l'année. C'est une providence spéciale. Comme dit Rabbi Nachman de Breslav, en Israël, les choses ont l'air naturelles, il n'y a rien qui est naturel. Tout est surnaturel. Tout. Ça a l'air naturel, c'est complètement surnaturel. On est là, dans la maison de Dieu. Comprendre que ça se passe autrement qu'à l'extérieur. Maintenant, tu dis, je ne sens pas. Tu mets une vache, excuse-moi, je parle de moi-même, d'accord? Tu mets une vache dans la maison de Dieu, hors de la maison de Dieu, ben, c'est mieux, d'accord? Il n'y a aucune différence. C'est où qu'il y a des pâturages meilleurs? Dans quelle mesure sommes-nous beaucoup plus que la bouche, que la vache? Je parle de moi, d'accord? Il y en a qui viennent en Israël, ils sentent un petit truc. Ils sentent, c'est bien déjà de sentir, c'est un petit, c'est quelque chose. Mais le petit que tu sens, c'est un millimètre d'un iceberg. Éternel. Éternel. Chazal dit, celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il est idolâtre. C'est pas une blague. Rapport à quoi? Parce que quand on fait une mitzvah, on amène un flux de lumière. Divin, éternel. Quand on l'a fait à l'étranger, une partie du flux qu'on fait, il y a un impôt. un impôt de l'entité spirituelle responsable du pays. Chaque pays, chaque peuple, il a un sar. Un sar, c'est un ministre. C'est pas un monsieur qui a été dans un bureau, c'est un ange. C'est quoi un ange? C'est pas non plus quelqu'un qui a des anges. C'est une entité spirituelle, d'accord? Appelle-le Mazal. D'accord, le Mazal. En Mazal l'Israël. Le Mazal, qu'est-ce que c'est? C'est pas un autre Mazal qu'on attend pour se marier. Ça aussi peut-être. Le Mazal, du mot nozel, on a besoin d'écouler. C'est les tuyaux par lesquels coule le flux qui vient de Dieu. Dieu a mis en place dans ce monde-là une structure spirituelle responsable de gérer le monde matériel. L'éthique écologique, la politique, l'économie, la santé, ça dépend de millions de paramètres que Dieu dirige. Donc Dieu, il a mis en place un système qui s'appelle le Mazal, qui fait que ça va gérer. Et chaque année à Rosh Hashanah, il fixe maintenant chaque tuyau, qu'est-ce qu'il y aura, combien combien, il y a 70 tuyaux, 70 peuples, avec des ramifications bien sûr, plus ou moins. Et chaque peuple aura droit à tant et tant d'économie, tant et tant de malheur, tant et tant de santé, tant et tant de maladie, etc., etc., etc. Donc ce Mazal maintenant, c'est une réalité spirituelle. El Mazal Israël. Am Israël n'a pas de Mazal. En hébreu moderne, pas avoir de Mazal, c'est pas avoir de chance, d'accord? Alors c'est faux, mais c'est pas complètement faux. Ça veut dire, si nous vivons en tant que juifs pratiquant, c'est-à-dire branchés à Dieu par les mitzvot, mitzvot signifie aussi, à part ce que j'ai expliqué auparavant, les quatre lettres du nom de Dieu, la racine du mot étymologique, mitzvot signifie, vient du mot tzavta, ça signifie équipe, union. Quand tu fais une mitzvot, tu t'unis avec Dieu. Tu amènes un flux de Dieu, donc tu t'unis avec Dieu. Comme si tu te rapproches de Dieu, tu t'unis avec Dieu. Si nous, âme Israël, pratiquons les mitzvot, on s'unit à Dieu, on n'a pas besoin de passer par le Mazal. On est hors le cadre naturel. On sort de Dieu directement. Mais si on n'est pas branché avec Dieu, on ne veut pas être surnaturel. On veut être naturel. On veut être comme les goïms. Alors on veut aller avec eux. On se met avec eux, et dit, mon cher ami, il est où ton Mazal? C'est pas, eux le disent aussi, mais eux reflètent ce qui se passe là-haut, dans le système économique, spirituel de gestion du monde. Chaque personne, et quel pays? Français, bon, t'es dans le tuyau français. Toi, t'es espagnol, t'es dans le tuyau espagnol. Toi, t'es quoi? Je dis, ben, t'es pas tuyau. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis comme vous, je aussi. Mais mon cher ami, tu manges le pain des Français. Tu manges le pain des Français. Dans tous les pays dans lesquels les Juifs ont été, ils ne se sont pas comportés d'après la Torah, il y a eu un rejet. Vous prenez, vous nourrissez de notre pain. C'est, du point de vue mystique, c'est pas faux. Parce qu'on n'a pas droit au Mazal. On n'a pas la chance. C'est vrai qu'on n'a pas de chance. Ça dépend qui tu es. Si tu branches à Dieu comme il se doit, alors tu es branché avec Dieu directement, sans besoin de passer par le Mazal. Si tu veux être maintenant comme les autres, tu rentres dans le Mazal, tu n'as pas de Mazal. Le peuple d'Israël n'existe pas du bois ou du Mazal. On est né dans le désert. On n'a pas droit à l'existence. Tous les peuples disent, tu n'as pas droit à l'existence. Cette terre ne t'appartient pas. Tu as pris une terre qui n'est pas la tienne. Si je ne suis pas branché avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui me donne cette terre, qui est RSH, la terre de Dieu, je n'y ai pas droit, c'est vrai. J'y ai droit parce que Dieu me l'a donné. Pour du Mazal, je n'existe pas. Alors ça répond à ce que je dis. Je dis, en hébreu moderne, on dit t'as pas de chance. Ça veut dire, si t'es pas branché avec Dieu par le biais des mitzvot, t'as vraiment pas de chance. Si t'es branché avec Dieu, t'as besoin de rien. T'as besoin de rien, t'es comblé, de A à Z, dans les bras de Dieu. Si on ne se branche pas avec à Dieu, alors d'où on va se voir notre flux? On n'a pas de tuyau. Pour avoir un flux, il faut un tuyau. Si tu te branches avec Dieu, tu reçois de lui directement. Si tu ne veux pas être branché avec Dieu, alors il faut un tuyau par lequel tu reçois ton flux. Il n'y a pas de tuyau. Il n'y a pas de tuyau. Il y a un tuyau français, espagnol, russe, anglais, allemand, États-Unis, etc. Il n'y a pas de tuyau juif. Vous ne savez pas ce que t'es, c'est quoi un juif? On ne sait pas. Il n'y a pas de définition. Pas non plus en Israël. En Israël, il y a Dieu. Dans cette terre vomit ses habitants s'ils ne se comportent pas d'après le comportement que Dieu veut. Il n'y a pas de sar, le sar, il n'y a pas de ministre d'Israël. Non, donc Dieu directement.
Et
l'Israël qui n'est pas juif, il a le flux de d'où il vient. Il est russe, il est espagnol. Attends, mais ça, c'est pas. Dieu il est patient, il laisse. Actuellement, en Israël, il y a un très grand retour. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très loin, mais tu recompares la situation entre 66 ans et aujourd'hui, il n'y a pas photo. 1 million de juifs, il y a un mois et demi, ils sont revenus à l'entrée Jordan pour créer le chemin à Israël, c'est miraculeux. Ceux qui ne s'attachent pas au peuple juif, c'est pas. Dieu est patient. Ce n'est pas que maintenant, un peu dans un pays, se comporte mal directement, il n'y a plus rien, tout le monde crève de faim. Ça prend du temps. Mais ça arrive, c'est clair. Et la vie n'est pas facile en Israël. Alors peut-être bien plus facile. On est entouré d'ennemis, entouré de terroristes, dedans, dehors, partout. C'est pas si facile que ça. Bon, Hachem, le monde de la Torah qui fait qu'on est plus ou moins protégé, d'accord ? Pas simplement bien. Aujourd'hui, l'État d'Israël veut aller contre ce monde de Torah, il se met en situation extrêmement périlleuse. Bon, c'est la fin. À la fin de Chrétien Toubot, c'est marqué que la génération où le Mashiach vient, catégorie Batamir Haramim. Il y aura des accusations contre l'État Mir Haramim. On est en train de vivre cela. Grande nouvelle ce matin, le Rav Chaim Kanievski, l'histoire est comme ça. Il y a quelques mois, c'était vers le mois de septembre-octobre, d'accord, deux Rashi Kolelim, deux responsables de collège, sont venus voir le Rav Chaim Kanievski, disant qu'on n'a plus. Comment on fait pour payer l'Avrichim, les étudiants Torah, il n'y a plus rien. C'est fini. On ne peut pas, avec les crédits de l'État. Économique contre le monde des yeshivot, on ne peut plus tenir. Rav Kamsky leur a dit, vous voyez la porte? On la voit, il est juste derrière. Qui? Mashiach. Ce matin, il a dit, il a ouvert la porte. Il a dit ça. Ce matin, c'est pas le problème, c'est pour ça qu'il a dit ça peut-être hier soir ou hier après-midi. Le Rav Steinman, il a dit, il y a un mois et demi, samedi soir dans sa yeshiva. Ti pêche. Traduction en français. Imbécile. Celui qui ne voit pas la lumière du Mashiach. Imbécile. Quelqu'un vient me voir à sa yeshiva. Elle est où cette lumière? Il sortait un peu imbécile, quoi. Je veux voir. Il a raison, je suis entièrement d'accord. Vous me dites où est la lumière? Je ne vois rien, moi. Alors d'abord, c'est l'accusation contre le monde des yeshivas. Ça date d'environ un an. C'est un signe. Super grand, mais le plus grand, c'est quoi? C'est ça que le Rav Steinman a vu deux choses, on va dire en plus. 1 million de juifs qui, à l'entrée de Yerushalayim, orthodoxes, Krishma Israël, qui l'aurait cru? Il y a 60 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. C'est extraordinaire, extraordinaire. Le peuple juif, en tant que juif pratiquant, est revenu en terre d'Israël. C'est miraculeux, comprenez? On a l'impression que c'est normal. Jérusalem, reconstruit, il y avait des juifs en train de pratiquer dedans. Mais non! Chaque mariage, qu'est-ce qu'on crie? Qu'est-ce qu'on chante tous les mariages? Oh, Dishama, Bahreïouda, encore on entendra. Dans les villes de Juda et les collines de Yerushalayim, quand ça sonne la voix de joie, la voix d'allégresse, la voix du Khatan, du marié et de la mariée. Le prophète dit, Jérusalem est détruite, on est en exil. Sache mon cher ami, je fais une prophétie, un rêve, ça a l'air complètement dingue, crois-moi ça arrivera. Encore un jour, on entendra le son des mariés et mariées à Yerushalayim. C'est Yirmiyahou, si je ne me trompe pas. Et nous, maintenant, on fait des mariages tous les jours. Pourquoi très bien, normal, rien n'est normal. Rien n'est normal, c'est miraculeux, miraculeux. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un mois et demi, Poutine dit, allez, je prends la Crimée. La Crimée, la Crimée. La Crimée. On coupera ça de Internet pour pas que les élèves sont encore plus belles que moi. Moi aussi, je ne suis pas trop courant, d'accord. Donc, dans la mer Noire, il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine. Et les frontières, je fais avec, à l'envers pour la mer Noire. Là, il y a l'Ukraine et il y a la Russie. Toute la Russie qui est en frontière avec l'Ukraine. En Ukraine, il y a une presque île. Une île qui est liée un peu à la côte, qui s'appelle la Crimée. Mais il y a un mois et demi, l'armée russe rentre, plic, prend la Crimée. Il y a une vraie guerre. Ce n'est pas une guerre maintenant, encore une guerre d'armes, c'est une guerre politique et économique. Économique entre l'Amérique et la Russie. Et tout à coup un type maintenant au XXIe siècle, parce que Poutine, d'accord, oui, ben, je prends un pays, ça veut dire que demain, je prends toute l'Ukraine, on peut décider de commencer à prendre un peu plus. Et, enfin, jusqu'à maintenant, la Russie, depuis 50 ans, ça, on était tranquille, hein, c'est fini les guerres, on fait des matchs de foot, ok, bon, qui gagne, qui perd, mais pas procurer un pays comme ça, parce que j'ai envie du jour au lendemain, c'est un truc de fou, de dingue. Je ne connais pas qui m'a fait de Poutine, je ne vais pas essayer. À mon avis, mais la chose la plus forte, c'est, je pense, cette réunion des Juifs ici à Jérusalem, plus le fait que dans l'État maintenant, la position se durcit complètement des Yeshivotes. Voilà. Et puis, bien sûr, Reb Chaim et Reb Chaim sont des grandes générations, ils ont des inspirations divines et des choses grandes. Alors, Mashiach est là, ça ne veut pas dire que demain, la Géoula, peut-être oui, je ne sais pas, mais si on regarde sur 5000 ans, c'est marqué dans Shir HaShirim, il est là, il regarde derrière le tri, d'accord. Bon, depuis tri, il est passé derrière la porte, derrière, il a ouvert la porte, bon, il avance lentement, c'est pas... Attends, mais je vais reprendre le fil. Donc, toi, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à l'étranger, on est comme si on est Obed Avodah Zara, comme si on est idolâtre? J'ai commencé à expliquer qu'à l'étranger, il y a des canaux, le mazal, d'accord? Ce sont des canaux spirituels, des anges, des ministres de chaque génération, qui sont responsables de la gestion physique, d'accord, peut-être aussi spirituelle, de leur peuple. Lorsqu'on fait le mitzvah dans les territoires de ces ministres-là, alors le flux qu'on amène sur nous, il y a une partie qui va aussi à eux. Donc on donne un flux à l'autre côté. Si ces ministres-là étaient pratiquants du judaïsme, pas de problème, ils pratiquent le christianisme, ils pratiquent le tibétisme, ils pratiquent le... D'accord ? Donc c'est contraire à la vérité. Donc on donne un flux de Dieu au côté faux, côté du mal. Ce qui est contraire à la vérité, c'est le mensonge. Donc on donne un flux de Hayah ou Bevi, d'éternité, tu comprends ce que ça veut dire? C'est grave. C'est ça, Vodazara, tu donnes un flux divin au côté, à ce qu'il y a de plus anti-divin possible. C'est grave. C'est ce qui habite à l'étranger. C'est marqué, celui qui habite Israël, c'est Avira d'Israël, Markim, l'air d'Israël, en sage, il m'a terrible dans Ktubot. Vous le ferez bientôt, hein. Kofu d'Aleph, page 111, écrit là-bas, hein. Qui demande à qui? Voilà, très bien, Ktubot, on va faire dedans. Haou Gavra, cette personne, le Naflale Yebama Bechouza'a, il habite à Israël, et la femme de son frère, elle vit à Yabama, son frère est mort, sans enfant, et lui, il a une mitzvah de Yiboum, le Lévira en français, elle se marie avec cette femme-là, une mitzvah de la Torah, que les Ashkenazim ne pratiquent plus aujourd'hui, mais les Sfaradim peuvent pratiquer s'ils désirent, se marier avec la belle-sœur quand le frère décédé n'a pas eu d'enfant. Alors, une mitzvah, il va voir, Rabbi Hanina, il lui a dit, voilà, est-ce que j'ai le droit de quitter Israël pour aller faire le Yiboum, cette mitzvah de la Torah, avec cette femme qui habite l'étranger? Rabbi Hanina lui a répondu, son frère s'est marié avec une non-juive, et il est mort. Béni soit l'Éternel qui l'a tué. Et lui demande à faire la même chose, sans rien dire. Rabbi Hanina lui dit, le frère, ton frère, s'est marié avec une Goya. C'est faux, c'est une juive. Preuve en est que il va se faire le hiboum, pas hiboum avec le livira avec une non-juive, il s'est vécu avec une juive. Pourquoi Rabbi Hanina dit son frère se met avec une non-juive, béni soit Dieu qui l'a tué, toi tu fais maintenant la même chose? Rachid dit rien. Le marche, ça explique. Étant donné qu'elle habite à l'étranger, c'est comme si c'est une non-juive. Alors, la Hanina n'est pas comme ça. On peut quitter Israël pour aller faire cette mitzvah-là. Mais la Gemara, tout de suite, comprend. C'est pas n'importe quoi. Entre Israël et l'étranger, c'est des millions de milliards d'années-lumière. Des millions de milliards d'années-lumière. C'est la terre de Dieu. Maintenant, ta question, on ne ressent pas. Ok. Et quand on est fille, on ressent. Et quand on fait Kippour, on sent un peu. Quand, je ne sais pas moi, tu fais une grande mitzvah, Shiloh Haken, d'accord, faire partir la mère des pigeons pour prendre les œufs. On ne sent rien du tout. Tu mets le talit, tu sens, tu vas voir dans le livre de Kabbalah, quand tu mets le talit, le Rabbi Yishra, qu'est-ce qu'il dit, tu fais partir les clipotes, les machins, tout. On sent rien, presque rien. Quand on sanctifie beaucoup, lentement, on commence à sentir ces choses-là. Et il est clair que parmi les mitzvot, les premières qu'on peut ressentir, il y a aussi Eretz Israël. Particulièrement Yerushalayim. Les gens qui viennent, ils sont anti-Yerushalayim. Moi, j'ai une tante super anti-religieuse. Je ne peux pas habiter Yerushalayim. Je ne supporte pas. Les gens qui sont anti, ils sentent la Kedusha. Les gens qui sont anti, ils ne font pas la Kedusha. Bahou Khadonaï, l'homme m'a amené.